Bonjour chers amis de Radio Courtoisie, bonjour chère Anne Brassier.
Bonjour cher Pascal et bonjour chers amis de Radio Courtoisie.
Alors nous voilà réunis une nouvelle fois, et cette nouvelle fois parce que chaque fois qu'on se voit, qu'on se rencontre, c'est une joie, alors c'est un renouvellement. C'est vous qui avez choisi les thèmes, Anne, et vous avez choisi un thème d'actualité si je ne me trompe.
Oui.
Enfin, d'actualité. L'histoire est toujours d'actualité.
L'histoire est toujours des actualités. Et bien qu'on dise le contraire souvent, l'histoire se répète parce qu'il y a des continuités dans le comportement des peuples, je crois.
Oui.
Les siècles passent, mais les comportements humains sont toujours les mêmes.
Il y a des grandes, il y a des, voilà, des grands axes,
il y a des schémas,
des grandes lignes de.
Et je
de
suis
force.
Pour préparer cette émission. Alors, d'abord. Nous parlons bien sûr de Brasiliac, et ce n'est pas lui qui se manifeste, mais peut-être aussi. Nous parlons de Robert Brasiliac à l'occasion de la publication par l'Association des Amis de Robert Brasiliac des poèmes de Fresnes. L'intégralité des poèmes.
C'est l'anthologie, vraiment.
L'anthologie
complète.
Avec une préface exceptionnelle de Cécile Dugas. Cécile Dugas, qui est une agrégée de lettres et qui a vraiment le don de la pédagogie, bien sûr de la compréhension des textes, mais aussi de nous les faire comprendre et saisir. Et c'est une grosse préface de 70 pages. Mais,
c'est beaucoup plus qu'une préface.
Qui a fait mon bonheur. Bon, sur un sujet que je connais pourtant un petit peu, mais j'avoue
oui,
que...
Oui, je rappelle que vous avez publié Robert Brasiliac ou encore Un instant de bonheur il y a quelques années et qui est...
87.
Le livre de référence.
En 87. Et j'avoue que c'était un très grand bonheur de la lire. Alors, il y a les premiers poèmes, les poèmes d'avant-guerre, les poèmes d'un recueil qui a été publié en 44 et les poèmes de Fresnes. Et tout ça est publié par une vaillante association qui s'appelle l'Association des Amis de Robert Brasiliac, ARB, qui a créé une maison d'édition, Les Sept Couleurs.
Oui,
il y a un site internet.
Ce qui est un hommage. Ce qui est un hommage,
puisque c'est le deuxième grand roman de Brasiliac, après Comme le temps passe. Et ils ont déjà réédité l'histoire de la guerre d'Espagne, histoire écrite avec Maurice Bardèche.
Oui. C'est de nouveau Brasiliac qui nous a fait.
Et Lettre à une provinciale, ça ce sont des articles écrits par Robert Brasiliac. Un Corneille, une biographie de Corneille.
Qui est admirable.
Qui est admirable.
Oui.
Et vous m'aviez invité et nous avions bien évoqué toutes les similitudes entre Corneille et Brasiliac. Extraordinaire. Vraiment, Corneille apparaît sous un jour tout à fait étonnant. Dans cette biographie.
Mais Brasiliac, je dois dire que je l'ai découvert. Je rappelle ça à nos amis auditeurs. Lorsque je commençais mon grec par son anthologie de la poésie grecque qui a illuminé ma vie dans son adaptation du grec. Et puis j'ai surtout été, je dis ça par rapport au théâtre, j'ai été fasciné par sa Bérénice.
Oui, voilà. C'était une très belle pièce.
Voilà.
Vous avez raison. Enfin, ils ont republié Comme le temps passe, qui est le roman culte de Brasiliac, toujours avec une postface de Cécile Dugas. Et une préface d'Anne Brassier. Voilà. Je vous donne l'adresse parce que vous pouvez avoir envie de... Donc, sur Internet, vous allez sur le site Les Sept Couleurs.
Oui.
Et sinon, boîte postale 19 60 240 Chaumont. Chaumont. Voilà la présentation.
Alors, lorsque vous avez rencontré, je faisais allusion à ma rencontre avec Robert Brasiliac, lorsque j'étais jeune à l'école et même pas encore étudiant, et puis ensuite il m'a accompagné. Et je dois dire que Comme le temps passe, dans les premières pages, définit la vie comme une île, puisque ces deux enfants qui sont là en train de passer leurs vacances, ça commence comme ça. Et la vie est une île.
Le bonheur est une île.
Et oui, et le bonheur associé. Et justement, aujourd'hui, nous dédions, on pourrait dire, à travers cet hommage à Robert Brasiliac et à l'histoire qui l'entoure et qui nous entoure, nous dédions cette émission au bonheur envers. Et malgré tout, hein, on est d'accord.
Absolument, absolument. C'est pour ça que j'ai appelé ma biographie « Encore un instant de bonheur ».
Et voilà.
Et j'avoue que Maurice Bardèche, qui ne me connaissait pas encore bien, me dit « Quelle drôle d'idée ». Et puis, en fait, je crois qu'il s'est fait à l'idée. Et Brasillach est un peintre du bonheur.
Oui, mais Maurice Bardèche avait une autre vision de la vie.
Et... Ouais, c'est-à-dire que Maurice Bardèche, vous comprenez, à la Libération, lui a quand même tué son frère.
C'est vrai.
Et son frère et son beau-frère, ça fait beaucoup.
Ça fait...
On l'a mis en tôle.
Oui, oui.
Donc, si vous voulez, la vie commence à être triste pour lui. Alors, il s'est rattrapé après, il a eu des beaux enfants.
Exactement.
Et
les sept couleurs ont été son enseigne, il ne faut jamais l'oublier.
Absolument. Et si vous voulez, Puis Maurice Bardèche est un rationnel.
Oui, voilà. À la différence de Robert.
À la différence de Robert qui est un poète.
Oui, qui est un poète. Et tout à l'heure, je consultais, pour vous faire sourire, une IA avec laquelle je travaille, qui s'appelle Claude, qui est très célèbre. Et elle disait, je l'interrogeais sur le rôle de la poésie dans ma vie, à moi personnellement. Oui. Et elle m'a dit, mais la poésie est votre matrice.
Ah oui, c'est joli.
C'est la matrice de Robert.
C'est joli. Absolument. Absolument.
Et c'est ce qui nous réunit autour de ce micro, parce que n'oublions pas, et je le répète presque à chaque émission, la matrice de la poésie, c'est une matrice orale. Elle est publiée, imprimée, etc., mais elle est un chant. Alors, ce chant nous ramène au chant, C-H-A-M-P cette fois-ci, de la politique et de l'histoire. Et je crois, chère Anne, que vous souhaitiez que nous évoquions une actualité brûlante par un film qui vient de sortir sur les écrans.
Rayons et des ombres, oui, de Xavier Giannoli et Jean Dujardin comme héros. Et c'est la vie de Jean Luchaire, racontée par sa fille dans les dernières années de sa vie.
Peut-être vous pouvez rappeler, parce que je pense que beaucoup de nos auditeurs et auditrices connaissent Jean Luchaire, mais non, d'autres non.
Il est peu connu. Ça a été c'était un journaliste d'avant-guerre déjà, très engagé dans le pacifisme. C'était un socialiste. Alors, première surprise, oui, un film qui nous dit que la collaboration, ce n'est pas l'extrême droite.
Oui, c'était un enfant de Jean Jaurès, en vérité.
Oui, absolument. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il est habituel de dire que les collabos, c'est les gens d'extrême droite. Donc là, retour à la réalité historique.
Ça réunit l'histoire, toujours tout le monde.
Et d'ailleurs, c'est ce que dit Giannoli, je suis très attaché à la rigueur historique. Donc on va mieux déjà.
Oui.
Parce qu'il y a tellement de bêtises dites sur cette époque.
Ah, bêtises sans culture, parce que le drame de notre époque, c'est l'inculture.
Oui, mais alors, je ne dirais pas quand même ce que c'est tout à fait de la faute du bon peuple. C'est qu'on lui donne à manger quand même de la propagande tous les matins.
Oui,
matin, midi et soir.
Parce qu'on veut faire de chacun d'entre nous des nouveaux esclaves.
Des petits propagateurs de la foi. Et oui, de quelle foi? La foi socialiste et même la foi coco. Parce que la foi communiste, c'est quand
bien
même
sûr,
ça qui
sûr.
Anime.
C'est une fois de substitution.
C'est unanime. Toutes ces gens qui prononcent le mot d'antifascisme se foutent de notre figure.
C'est devenu aujourd'hui le mot banalisé par excellence.
Je veux rester extrêmement bien élevé,
oui,
bien que j'ai du mal. Mais enfin, l'antifascisme, c'est quand même une idée inventée par les soviétiques pour tailler en pièces les blancs espagnols, si je puis dire, dans la guerre civile, vous comprenez ?
Exactement.
Alors, il y avait d'un côté les catholiques de droite espagnols et il y avait de l'autre côté les soviétiques qui voulaient prendre possession de l'Espagne. Si Franco n'avait pas été là, il n'y avait plus de couvents, il n'y avait plus de religieux, il n'y avait plus de... Il faut rappeler tout de même ce que c'était que la révolution soviétique en URSS et ce qui aurait pu être la révolution soviétique en Espagne.
Exactement.
Donc, si vous voulez employer un terme que les bons journalistes français aujourd'hui emploient, et ce mot de antifascisme, c'est quand même se moquer du monde.
Le fascisme ne signifie plus rien aujourd'hui dans le langage. Bon,
absolument. En plus de ça, quand on a dit, parce que ça, c'est à cause de l'affaire de Quentin, si vous voulez, la mort de ce jeune homme m'a révulsé, on dit qu'il a été lynché. Non, le mot lynché, c'est un mot américain qui correspond à une pratique des Américains au début de leur installation. On pend immédiatement un type qui a été pris en flagrant délit de crime. Donc on lui règle son compte et on le pend. Là, ils ont massacré à terre avec des coups de pied un jeune homme.
Mais revenons à Jean Lucère. Mais, au-delà de votre colère.
Mais tout ça est une question de vocabulaire, si vous voulez.
Mais je sais. Mais c'est les mots qui tuent comme c'est les mots qui guérissent.
Voilà. Oui, mais le problème, quand on dit c'est les mots qui tuent, on dit c'est Brasiliac qui tue. Non, c'est pas Brasiliac qui a tué. Et alors, le mot important, c'est pacifisme. Et alors, c'est très... Enfin, c'est pas très amusant, mais c'est sinistre. Mais de... comparer nos périodes. Nous sommes en pleine guerre. Hein. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Une boucherie en Palestine, en Israël et en Iran, oui. Et dans tous les pays autour.
Et au Liban,
le pauvre Liban. Nous sommes autant de Brasiliacs très peu de temps après la guerre de 14, et il y a des gens qui s'élèvent en disant « Nous ne pouvons pas repartir dans une seconde boucherie ». Donc, je ne vois pas pourquoi critiquer le pacifisme, ça me paraît quand même une idée, tout faire pour que...
Mais ça a été la même chose avant 1914, oui. je pense. Au-delà des circonstances historiques, Conrad Lorenz l'a parfaitement décrit, il y a dans l'esprit humain quelque chose, alors on dit la sédentarisation, la possession des champs de blé, la défense de la propriété privée, mais il y a dans l'être humain une insupportabilité par rapport à l'autre et un désir de guerre on a essayé de corriger à travers la foi, à travers l'éthique, chez nous protestants, la morale, chez les catholiques, peu importe. On essaye constamment de rectifier cette tendance et ceux qui sont les héros, et le Christ a été crucifié.
Oui.
Et un socialiste qui s'appelait Montéus, qui était chansonnier au début du siècle, disait si le Christ revient, on le crucifierait à nouveau. Évidemment, c'est le bouc émissaire de René Girard.
Absolument.
Enfin, tout le monde sait ça.
Absolument.
Et de fait, aujourd'hui, alors Jean Lucher et Corinne, ce couple extraordinaire qui s'aimait d'une manière formidable, je rappelle que Corinne était une très grande actrice, et lui était un très grand journaliste. Alors, ils se sont embarqués, et vous avez vu, je n'ai pas vu encore le film, vous l'avez vu, cher
Oui, je l'ai vu.
Alors,
ce qui est très drôle aussi, c'est la critique actuelle, parce que j'ai vu le film, et puis je suis allée voir les critiques. Et alors, il y a certains journaux, évidemment, les plus à gauche, ne supportent pas ce film, parce que il est plein d'empathie pour Jean Lucher. Mais justement, Diane Lee a voulu montrer ce qu'il y avait de bien et ce qu'il y avait de mal dans
Comment
le personnage.
Comment chacun de nous et, des rayons et des ombres.
Mais alors, ce qui est très amusant, c'est qu'on se scandalise parce que le journal Les Nouveaux Temps de Lucher a reçu de l'argent de l'Allemagne. Mais ça fait 20 ans que tous les journaux français reçoivent de l'argent de l'EPAC. On ne peut pas nier ça.
Mais
ça
oui.
n'est pas su, mais enfin, ça commence à se savoir. Donc, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo, oui. Vous voyez.
Non, mais il n'y a pas de civilisation pure, ni d'humanité pure.
Non.
Il y a des rayons et des ombres. Et je trouve ce titre absolument remarquable, même
oui, absolument.
S'il ne l'a pas inventé.
Alors, pour revenir à Brasiliac, Brasiliac est tout de même le fils d'un officier mort pendant la guerre de 14, non pas sur les champs de bataille français, mais au Maroc, dans un combat contre les Alians, qui était une tribu qui se révoltait contre la présence des Français. Et le petit garçon a 4 ans. Donc, si vous voulez, la guerre, et à Perpignan, où il vit, il voit arriver tous les réfugiés du Nord qui viennent, des orphelins. Et donc, si vous voulez, et déjà là, il rentre, j'ai retrouvé cette anecdote, il rentre avec aucun vêtement chez lui, ou presque aucun vêtement. Il avait tout donné à des petits-enfants réfugiés qui étaient là et qui n'avaient rien. Donc, si vous voulez, l'idée de Brasiliac, c'est plus de 100 versets. Et je vais vous lire, c'est ce qu'il a écrit, il a dit aux jeunes de Brunois, c'était un camp de vacances pour les jeunes. « Vous le savez mieux que personne, j'ai voulu garder ma patrie du 100 versets et je vous donne ce 100 gardé, ô mes amis. » Voilà, c'est quand même très clair, c'est quand même très... beaucoup de poèmes sur le... Beaucoup, beaucoup de poèmes sur la volonté de ne pas verser le sang et de ne pas repartir au combat. Voilà. Donc c'est une grande constante chez lui et il est catastrophé de... Mais d'ailleurs, il y a un autre personnage qui est comme lui. C'est Céline. Céline qui est qui dont la colère est immense parce qu'il voit que l'on se dirige vers un second conflit mondial. Vous voyez?
Oui. C'est la même préscience.
Exactement.
Et la même réaction. Vous avez choisi, chère Anne, puisque notre émission est quand même promenade et flânerie au domaine de poésie, liée à la poésie et d'où le sujet central de notre émission, les poèmes publiés récemment de Robert Brasillach par les amis. Vous avez choisi comme premier poème ce tout petit poème qui est cité dans la préface de l'anthologie.
Oui, la balade de Suzy.
Oui, alors je lis simplement ces quelques vers. Oui. C'est que cela n'est pas aisé de mettre en de rimes alertes de bons souhaits et des baisers qui sont pourtant sincères, certes, et le risque de me briser la substance intracéphalique pour aligner une poétique. Bonne fête à ma sœur Suzy. C'est pour donner un peu l'idée du petit garçon qui est déjà poète.
Très, très, très tôt. Il a publié d'ailleurs dans les journaux perpignanais des poèmes. Il avait 17 ans, 18 ans. Enfin, il a eu un goût très, très précoce pour la poésie qui s'est développé parce que, bon, évidemment, au lycée Louis-le-Grand à Paris, il a pu avoir accès à toute la grande poésie, notamment la poésie grecque. Et ça, c'était... Ça a été pour lui extraordinairement formateur.
Je comprends d'autant plus que, à travers mes fonctions au sein de la principauté de poésie à laquelle j'ai été promu il y a 3 ans, aujourd'hui, je fais en ce moment comme une sorte de mémorial de comment je suis entré en poésie. Moi, j'y suis entré à l'âge de 9 ans parce que j'étais seul, enfant unique et condamné à faire 7 heures de piano par jour et vivant seul à la campagne. Et la poésie...
C'est l'éducation idéale.
Ce qui est une éducation idéale.
Absolument.
Elle était remarquable. Oui,
pas de distraction.
Ah non, alors là, je dirais que le mot distraction...
au sens pascalien du terme.
Oui, d'ailleurs, ma mère m'a prénommé Pascal pour que je ressemble à Blaise Pascal. Prétention d'une mère, n'est-ce pas? Ça,
voilà.
C'est clair. Mais je dois dire que certains disent
que... C'est celles qui font les grands hommes.
Que pourquoi pas. Et donc, j'extrais toujours de la préface ce poème qu'il écrit quand il est à Lyon, que je trouve remarquable, « Ombre ». On revient au crayon des ombres. Ombre, compagnon des brumes, où es-tu? Que deviens-tu? L'étoile sur le pont s'allume, l'eau large coule au loin, où es-tu? Parfois, dans la rue voilée et noyée, entre les tramways pâteaux et les roues, je te rencontre, compagnon de bonne volonté, et nous parlons, comme si tu voyais le jour. Dans le brouillard, dans les hivers blafards, quand les filles fardées font le guet au coin des rues, quand les becs de gaz clignotent et sifflent dans la nuit, tu te réformes parfois dans l'air humide et noir et tu me parles, ombre que je n'ai pas connue. Tout d'un coup, changement complet de style, de discours entre l'adresse à Suzy. Et cela, il l'écrit quoi? Il a 20 ans?
Un petit peu plus tard. En fait, c'est un poème à la mémoire de Jacques de Montbrial, qui est mort très très jeune.
C'était un ami à lui parce
c'était
que...
C'était un ami, journaliste à lui.
Et ben voilà.
Très proche, et donc il imagine. Mais Brasillach a vécu avec ses morts. Il y a une autre morte qu'il avait beaucoup admirée, aimée, c'était Annie Jamais, qui était une fille très intelligente avec plein d'enfants et qui est morte d'une péritonite en 2 jours. Et il lui parle aussi. C'est assez étonnant, cette présence de la mort chez lui. Alors,
je le dis d'autant plus que je n'ai lu qu'un extrait dans la préface, mais il publie dans l'anthologie in extenso le poème Le Compagnon,
oui.
Qu'il écrit effectivement en 1933. Entre parenthèses, c'est contemporain de Comme le temps passe. Et il continue... À Jacques de Montbrial, ô mort de 24 ans, premier mort de mon âge, double de moi-même, inventé par le destin, avant moi débarqué sur le second rivage, avant moi-même instruit de patois souterrain, frère, premier frère échappé de nos cercles vivants. Si je t'ai peu connu sur la terre vivante, qu'importe, maintenant nous avons l'avenir. Nous nous reconnaîtrons sur le quai des voyages. Tu seras le premier que je verrai venir. Le soleil de la mort hâlera ton visage et tu me conduiras vers les huttes sauvages où nous rappellerons de brumeux souvenirs. Cependant que l'esclave, et patiente et sage que tu m'as destiné au moment de mourir, m'apprendra lentement les mots indispensables pour pouvoir chez les morts manger, boire et dormir. Ô mort de 24 ans, premier mort de mon âge. Qui est cette messagère qui lui a laissé? On sait quelle est la personne évoquée là, l'esclave patiente et sage que tu m'as destiné au moment de mourir, ou on ne sait pas?
Non. Il y a encore des choses à chercher dans cette vie, comme dans toute vie, j'imagine. Il y a même un poème délicieux dans lequel il dit, c'est un poème de la fin de sa vie, dans lequel il dit que dans sa tombe, il va emporter des choses. Ça, c'est un poème absolument délicieux.
Mais là, déjà, il est dans cette idée de la tombe.
Oui,
et je dirais une idée. Je me souviens quand j'étais à Chaveteri, à côté de Rome, chez les Étrusques, et que je suis descendu dans les tombes. Et je suis sûr que la culture grecque de Robert Brasillach est aussi une culture comme la mienne, latine,
oui,
et
absolument.
Donc étrusque. Et on habite ça. Et il y a ce poème que vous avez choisi sur ce thème de la mort qui est absolument extraordinaire, que je retrouve là dans l'anthologie. Et ce poème, page 203, c'est « Tu viendras ».
Oui, c'est ça. Est-ce que je peux le
lire? Mais oui, justement, on est 5 sur 5, chère Anne. J'allais vous proposer d'alterner nos deux voix.
« Tu viendras comme un soir sur les bassins obliques et ce ne sera pas si triste, chère mort. » Nous nous rappellerons de faciles musiques et les chants commencés en arrivant à bord. Le claquement massif de la voile qu'on plie ne détournera pas nos yeux de l'océan. Même alors, se peut-il qu'on oublie l'odeur du goudron neuf et des grands mâts fumants? Quand nous venions, enfants, vers les pesants cordages, vers la barque accrochée à son anneau de fer, nous regardions assis au bit d'amarrage le gonflement épais et calme de la mer. Et nos cœurs, chers morts, oublieux des rivages, emplis des chants rugueux faits pour les matelots, étaient prêts à partir pour les vastes voyages, étaient prêts pour le rack, la fille et le couteau. En songeant au vaisseau jaillissant de ses chaînes, comme au bruit de la terre auquel nous étions sourds, ne pardonnerons-nous au cri de la sirène, le repos qu'elle annonce et la fin des beaux jours. Cette extraordinaire proximité avec la mort qui est une amie, il vit avec elle.
Et à votre avis, chère Anne, il se trouve qu'à l'âge de 4 ans, ma grand-mère est morte. C'est un souvenir absolu chez moi. Ma grand-mère qui était née en 1862, et nous sommes quand même en 2026. Et maman m'a jeté sur son lit, il m'a dit va embrasser ta grand-mère, et j'ai embrassé une morte.
Oui.
Ce qui a été pour le petit garçon de 4 ans, ça reste aujourd'hui, j'ai froid à l'instant au bras.
On se souvient du froid glacial.
C'était un froid glacial, oui. Elle était toute petite.
Mais cela dit, je pense que c'est la bonne réflexion, va embrasser ta grand-mère.
Oui.
Moi on m'a, je vous dis raconter quelque chose de drôle, ma grand-mère meurt, on m'envoie ma sœur et moi au métro glaciaire, faut quand même métro glaciaire, toute seule, nous avons 13-14 ans,
oui.
Et nous embrassons notre grand-mère. Et c'est là, en effet, le premier contact avec la mort. Mais je crois que c'est très important. On ne peut pas élever un enfant en lui disant tu vas vivre toute ta vie. Il faut lui montrer que les grands-parents vont partir. C'est très important. Moi, je le fais avec les petites filles qui sont les miennes, et j'ai offert un médaillon à une petite fille pour sa première communion. Et j'ouvre le médaillon, il y avait des cheveux. Et je lui dis, ce sont les cheveux de ton papa. Et cette petite fille de 10 ans me dit, ah, c'est bien, Mia. quand il sera mort, je pourrai caresser ses cheveux. Vous voyez? Et je pense qu'il y a une profondeur et il y a un amour qui se traduit, oui, bien évidemment. Et puis cette espèce de goût d'éternité. La mort ne nous séparera pas.
Je trouve que j'ai les albums de famille, voilà, c'est parce que c'est comme ça, et j'ai effectivement le visage de ma grand-mère que de temps en temps je regarde, et elle est absolument vivante. Il n'y a pas de séparation.
Non.
Et je pense que la vie contient la mort contient la vie. Il y a cette transmission. D'ailleurs, cette émission et la poésie elle-même n'est-elle pas mission transmission?
Réjouis-toi, rayonnement de joie. Réjouis-toi, à qui le mal a disparu. Réjouis-toi, tu relèves Adam de sa chute. Réjouis-toi, à toi, elle ne pleure
Trouvons, chère Anne, de l'autre côté de la musique, et non pas de l'autre côté de la vie et de la mort, mais nous avons entamé ce voyage avec Robert Brasillach du côté de la mort, et dans un poème qu'il écrit à l'occasion de la mort de son amie Annie Jamais, il écrit ceci. Vous nous parlerez d'Annie Jamais, si vous voulez bien, après. Reviendrez-vous auprès de moi dans les lumières de la ville? M'apparaîtrez-vous quelquefois? Ô brume, ô chère ombre inutile, il faut me prendre par le bras et me parler, oiseau des îles. J'évoquais tout à l'heure les îles dans Comme le temps passe. Et en fait, cette Annie Jamais, cet oiseau Jamais, qui est-ce pour lui?
Alors, c'était c'était une femme qui avait beaucoup d'énergie et qui organisait des conférences littéraires.
Oui.
Et c'est à l'occasion de ces conférences littéraires, évidemment, qu'elle a rencontré Brasillach. Et ils se sont liés d'amitié, une amitié immense, qui aurait pu être autre chose, mais elle était mariée, très bien mariée. Elle avait 5 ou 6 enfants.
Oui.
Voilà, et...
D'ailleurs, quel est le rapport de Robert Brasillach et finalement de l'amour et des femmes? Parce qu'on en parle très peu.
Alors, on en parle très peu. On en parle très peu parce qu'il a été très discret, parce que c'était un homme qui ne se répandait pas Alors, d'abord, je dois vous dire qu'il avait deux femmes dans sa vie très présentes, la mère et la sœur.
Ah, oh là, ça prend de la place.
Question féminine, il était très entouré. Il habitait rue Rateau avec sa sœur. Il a eu des amours. Il y a une actrice roumaine, Paula, quelque chose, je ne me souviens plus, qui en garde un souvenir doux. Il y a eu une autre femme, Marguerite Cravoisier, qui lui a offert l'hospitalité en 44, quand ça commençait à craindre beaucoup pour lui. Et il est resté deux mois au cinquième étage d'un immeuble. Mais si vous voulez, c'était pas, comment vous dire, il ne s'est pas marié. C'était un homme qui travaillait 24 heures sur 24. Hein.
Il a tellement écrit en si peu de temps, si j'ose dire.
12 tomes, vous vous rendez compte, pour une mort à 33 ans, ça fait 12 tomes. Et voilà, c'est tout.
Mais la féminité, au-delà de la femme, il y a la féminité.
Et il aime la féminité.
Et ben voilà.
Il aime la féminité.
Il est lui-même profondément féminin. Enfin, je dois dire que il se trouve que je raconte souvent ma vie à Radio Courtoisie parce que voilà, depuis le temps que j'y suis, ma vie est associée à peu près à la radio. Et il se trouve qu'une des femmes de ma vie, là, ces temps-ci, m'a dit « Est-ce que tu pourrais écrire ?» Et peut-être je l'écrirai avec elle. J'ai commencé de l'écrire. « La raison pour laquelle tu es un homme différent des autres parce que tu es féminin. » Je ne suis pas du tout, je précise tout de suite, quelqu'un qui se livre à des accès de type homosexuel, mais je suis profondément féminin et je pense, et j'ai fraternise avec Robert Brasillach parce que je ressens un frère de ce point de vue-là.
Oui, oui, ça ne m'étonne pas du tout, ça ne m'étonne pas du tout. Mais on ne peut pas être poète sans avoir une part féminine. Mais vous savez, Pierre Cypriot, qui était pour moi un maître en littérature,
je comprends,
disait qu'il y a en chacun de nous une part féminine et une part masculine.
Je suis tout à fait d'accord.
Et que
c'est capital, ça, de dire
l'homme
ça.
Équilibré est celui qui respecte ses deux parts.
Alors, je suis équilibré. Oh, c'est une sacrée découverte.
Non, mais ça, c'est visible, Pascal. Plus équilibré et plus en forme que vous, il n'y a pas.
Et Michael, qui est à la technique, est en train de se faire signe à lui-même qu'il est frère et sœur dans ce domaine.
Bon, bah, c'est bien. Quant à moi, j'avoue que j'ai une petite part masculine.
Oui, puissance.
Et je le reconnais très volontiers. D'abord, je suis professeur, donc les professeurs ont une autorité. Hein,
oui.
S'ils n'ont pas d'autorité, ils ne peuvent pas rentrer dans la cage aux fauves. Donc, il faut quand même avoir une autorité. Et puis, c'est comme ça. Les femmes de ma lignée sont des
oui, mais
des femmes qui commandent et qui
rassurez-vous, chers amis auditeurs, j'ai Anne devant moi et nous ne nous ressemblons pas. Je reste malgré tout un peu un homme. Elle reste un peu une femme.
Oui, oui, je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus.
Nous avons deux manières de faire du charme.
Mais j'aime beaucoup cette façon de parler de l'équilibre, part féminine, part masculine. Voilà.
Vous savez, pardon, excusez-moi, chers amis auditeurs, pour cette petite toux. J'ai longtemps été à Saint-Eustache et il y a le buffet d'or conçu par Baltard. Et d'une part et d'autre, il y a Saül dans sa mélancolie et David, l'autre part, qui joue de la harpe pour le distraire. Et au milieu, servant de fléau à cette balance symbolique, il y a l'harmonie. Et l'harmonie entre la mélancolie et la joie. Eh bien, c'est ça l'équilibre.
Absolument.
Et je pense que cet équilibre, c'est ce qui nous harmonise avec nos accès. Évidemment, vous entendez bien ce micro qui a une certaine ardeur. et c'est le moins qu'on en puisse dire.
On ne peut pas la cacher.
Non, on ne peut pas parce que nous avons presque une fièvre par moment. Enfin, on est emporté par cette énergie. Parce que c'est ça qui nous caractérise.
J'ai un ami qui écrivait ce que l'on dira de nous, c'est que nous avons été des âmes ardentes.
Alors que j'aime ça. Que j'aime voilà. Ça. Quel est cet ami? Il est connu ou c'est un ami
Non, c'est un ami. C'est un ami qui était connu. Il n'est plus là aujourd'hui. Il s'appelle Pierre Mauguet et il a écrit une anthologie de la pensée de Nietzsche.
Ah.
Et ça a été un très grand livre parce qu'il a démontré qu'en réalité Nietzsche, loin de nier Dieu, cherchait Dieu.
Mais oui.
Voilà.
Mais j'ai dit parce que je suis profondément nietzschéen. J'ai été l'ami d'un homme qui avait fondé un cabinet de philosophie. Marc Sautet qui avait fondé le Café Philo, qui existe toujours au Café des Phares, place de la Bastille, et qui était nietzschéen, et qui me disait, on est tous les deux nietzschéens parce qu'on fait descendre la philosophie dans la rue. Et parce qu'on est là, on la met au milieu du monde.
Absolument. Et alors, cet homme avait une fantastique attrait pour la poésie. Et nous avons enregistré ensemble un CD que, chers amis auditeurs, vous pouvez trouver sur mon blog annebrassier.fr, qui s'appelle « Lettre à mon amour ». Et c'est un dialogue de poèmes de femmes répondant à des poèmes d'hommes. Et il avait une voix de basse magnifique. Et moi, je réponds, je joue les poèmes féminins.
Oui.
Et ça fait quelque chose d'assez merveilleux.
Nous étions tout à l'heure au démarrage de l'émission avec Jean et Corinne Luchère, et qui a donné finalement à travers le film de Giannoli et son titre « Des rayons et des ombres » le titre de notre émission que vous avez choisi. On peut dire que, je reviens à cette notion des rayons et des ombres, comment pourrait-on caractériser les rayons, on les voit bien, le rayonnement intellectuel, l'intelligence de Robert Brasillach, cette mystique panthéiste, enfin, telle que je l'ai ressentie quand j'ai lu aussi bien l'anthologie que Bérénice. Mais où sont les ombres, en dehors de ce qu'on lui a fait subir, ou de ce qu'il a vécu dans sa littérature, où sont les ombres ?
Justement, cette prémonition de la mort. Cette prémonition de la mort, je pense, et puis cette souffrance de l'engagement, parce que très vite, il va voir que l'engagement va être dramatique. Et ça, c'est, il le sait très très vite. Son frère lui dira, ne continue pas, je suis partout, on essaiera de le convaincre de se détacher. Et en réalité, il va continuer à s'engager. Il sait très bien que à la libération, on demandera des comptes à tous
oui.
ceux qui sont restés.
Mais il ne s'attendait pas à ce qu'on le...
Et non, il ne peut pas s'attendre à ça, parce que, si vous voulez, les gens honnêtes ne peuvent pas prévoir la malhonnêteté. Les gens tendres ne peuvent pas prévoir la cruauté. Les gens aimants
vrai.
Ne peuvent pas prévoir la haine. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas en eux, donc ils ne peuvent pas l'avoir. Et ça a été une... Pardonnez-moi l'expression, mais ça a été une grande, grande naïveté que de ne pas le voir. Il fallait... Céline, il l'a vu, il s'est barré à Sigmaringen.
Oui, Tandis que Robert est vraiment resté là.
Il est resté là. Et,
il avait confiance.
Et il avait confiance. Alors, je ne crois pas qu'il avait confiance.
Enfin,
parce que
peut-être j'exagère, mais...
La confiance, non, c'est quand même un esprit très alerte, il sait.
Oui.
Mais il ne voulait pas partir. Il était attaché au sol. Il aime sa patrie. Vous n'imaginez pas combien il aime sa patrie. Je vais vous lire des textes, un texte de lui extraordinaire. Cet amour de la patrie est quelque chose qui lui tient, mais tellement, tellement. Je vais trouver.
Qui le vivifie.
Mon pays m'a fait mal par ses routes trop pleines, par ses enfants jetés sous des aigles de sang, par ses soldats tirant dans les déroutes vaines, et par le ciel de juin sous le soleil brûlant. Mon pays m'a fait mal sous les sombres années, par les serments jurés que l'on ne tenait pas, par son harassement et par sa destinée, et par les lourds fardeaux qui pesait sur ses pas. Mon pays m'a fait mal par tous ses doubles jeux, par l'océan ouvert aux noirs vaisseaux chargés, par ses marins tombés pour apaiser les dieux, par ses liens tranchés d'un ciseau trop léger. Mon pays m'a fait mal par tous ses exilés, par ses cachots trop pleins, par ses enfants perdus, ses prisonniers parqués entre les barbelés et tous ceux qui sont loin et qu'on ne connaît plus. Mon pays m'a fait mal par ses villes en flammes, mal sous ses ennemis et mal sous ses alliés. Mon pays m'a fait mal dans son corps et son âme, sous les carcans de fer dont il était lié. Mon pays m'a fait mal par toute sa jeunesse, sous des draps étrangers jetés aux quatre vents, perdant son jeune sang pour tenir les promesses dont ceux qui les faisaient restaient insouciants. Mon pays m'a fait mal par ses fosses creusées, par ses fusils levés à l'épaule des frères, et par ceux qui comptaient dans leurs mains méprisées le prix des reniements au plus juste salaire. Mon pays m'a fait mal par ses fables d'esclaves, par ses bourreaux d'hier et par ceux d'aujourd'hui. Mon pays m'a fait mal par le sang qui le lave. Mon pays me fait mal, quand sera-t-il guéri? Mon pays me fait mal, quand sera-t-il guéri?
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Oui.
La chanson de la France familière. France, je ne te louerai pas seulement d'avoir l'épée, ni d'être la plus claire, vaste et ronde au bord du lac méditerranéen, ni d'avoir su justement ce qu'il faut dire et où il faut frapper, ni d'avoir la race des rois et le nom des plus anciens, mais je te louerai seulement d'être pour moi la France familière. Je te louerai parce qu'au bord d'aucun chemin je ne me sens dépaysé, et que je sais le sens du mot et du détour, parce que l'air de la chanson et la clairière sont pareillement usés, et que tu n'as aucun des charmes du départ, mais du retour. Vous comprenez, un homme qui écrit ça ne peut pas partir.
Vous avez fait, dans la préparation de l'émission, hein, et nous allons l'entendre maintenant, à travers la deuxième chanson d'Oviette, un parallèle, avant que je ne la lise, entre Robert Brasillach et Charles Péguy.
Oui, absolument. Mais parce que, d'abord, Brasillach avait une admiration extraordinaire pour Péguy. Mais je prévois un jour, si Dieu me prête vie et surtout le cerveau, je prévois un parallèle, une rencontre, Brasillach, Péguy et Gustave Thibon. Ah, les oui. trois attachés à la terre de France, comme oui. il n'est pas possible. Voilà.
Et ça, je me rappelle encore, puisque je l'écris en ce moment, que pendant les années de mon adolescence, je lisais le mystère de la le Porche de la Charité de Jeanne d'Arc, et Charles Péguy m'inspirait à moi de mauvais vers. J'en écrivais des centaines et des centaines et des centaines, parce que Péguy, alors centralement, chante. Et je voudrais faire entendre cette deuxième chanson d'Oviette, écrite dans les poèmes d'avant-guerre de Robert Brasillach. Les saisons s'en sont allées, compagnons de la Marjolaine, les saisons s'en sont allées, les hivers et les étés. Irons-nous encore danser, compagnons de la Marjolaine, irons-nous encore danser quand viendront d'autres années? Les prés ont été fauchés, compagnons de la Marjolaine, les prés ont été fauchés et les vignes vendangées. Deux hivers, s'en sont allés, compagnons de la Marjolaine, deux hivers s'en sont allés, le printemps s'est avancé. Le printemps s'est avancé, compagnon de la Marjolaine. Le printemps s'est avancé. Viendra-t-il un autre été?
Vous savez, Jean Madiran disait, le difficile de la poésie, oui. c'est d'être facile.
Oui.
Et c'est tellement vrai. La poésie, le vers parfait, le sonnet parfait, c'est un ruisseau d'eau qui coule, tout à fait clair. Il faut rapprocher Brasillach de... Non, c'est Jean Anouilh qui rapproche Brasillach de Villon, Rimbaud, Verlaine et Apollinaire. Vous voyez ces références, c'est le vers tellement pur et tellement simple que...
Oui, il y a... Je suis sûr que le grec a joué un rôle, parce qu'il en a joué, enfin, en tous les cas, quant à moi, cette fluidité du grec, parce que les mots peuvent se mettre dans l'ordre que l'on veut, ils sont dans l'ordre de la musique, et ça se comprend. Et il y a, chez Robert Brasillach, une aisance, et je tiens au mot fluidité. Cet enchaînement qu'on a entendu à l'instant dans une petite chanson... En vérité, nous avons beaucoup entendu, grâce à vous, chère Anne, Brasillach et la mort, aussi maintenant Brasillach et la poésie, et l'héritage des poètes. Est-ce qu'on peut dire de Brasillach qu'il a autant lu qu'il a écrit?
Ah, c'est sûr. Vous avez tout à fait raison. D'abord, on peut pas lire sans avoir écrit avant.
Non.
Mais il a eu des études, tout ce qu'il y a de plus sérieuse, concentrée, profonde, ça, c'est évident. Et puis, vous savez qu'il était critique littéraire.
Oui.
Donc, il a lu tout ce qui... Il faut lire ses portraits littéraires. C'est tout à fait magique.
Oui, mais ça, il a l'art aussi... De pénétrer la personne, j'allais dire physiquement et spirituellement. Et à travers ses portraits, on voit se dresser les silhouettes.
Il a fait un portrait de Jean de Lavarande. Lavarande, le dernier féodal. L'image est parfaite. Lavarande est un féodal égaré au XXe siècle.
Oui. Vous touchez quelque chose qui m'est cher, parce que vous étiez à ma dernière conférence sur Lavarande,
oui.
Qui a accompagné toute ma vie. Enfin, voilà. Et oui, parce qu'il y a aussi... Ah, compagnon de vie, puisque le mot compagnon est si cher qu'après tout, je suis affilié au compagnonnage
oui.
Des devoirs dans le bâtiment. En fait, les compagnons qui ont accompagné... c'est un pléonasme,
oui.
Mais un compagnon peut ne pas vous accompagner, il peut vous trahir. Enfin, voilà, Dieu sait, quel qu'il soit. Quels sont les compagnons de Robert les au-delà des compagnons de lecture, des compagnons disparus éventuellement, puisqu'on est des héritiers, les compagnons de son vivant, les vrais compagnons.
Alors, le premier, c'est Maurice Bardèche.
Oui, ça oui.
Les autres, ce sont les compagnons de journalistes. Il a été à l'Action française, il a eu beaucoup d'amitié pour les journalistes de l'Action française. Et puis... il y a eu Lucien Combel, avec lequel il s'est fâché après, mais il y a eu Henri Poulain.
Ah oui.
Il y a eu... c'était un homme d'amitié.
C'est ça. Vous savez, je viens de vivre quelque chose d'extraordinaire, chers amis auditeurs. J'étais, pour les raisons du geste d'or que je dirige, à Amboise, samedi dernier, et j'étais à la pagode de Chanteloup. Et quand le duc de Choiseul, en 1675, construit, après les travaux de son château qui a disparu, puisque la bande noire a détruit le château pendant la Révolution française, mais il reste la pagode, où il était d'amis, eh bien, il y a la plaque encore, en bas de la pagode. Je dédie ce monument à ceux qui sont venus me voir pendant mon exil, et je dédie la pagode à l'amitié. L'amitié a été le culte du XVIIIe siècle. Il a continué au XIXe et on pourrait dire, pourquoi je dis ça ? Parce que Robert Brasillach me paraît un héritier de ces temps-là.
Vous avez tout à fait raison. Il faut lire le testament. Brasillach écrit un testament à Fresnes. Ça s'appelle Les poèmes de Fresnes. Et c'est vraiment ce qui a eu...
Peut-être que vous pourriez en lire à l'instant avant.
C'est ce qui a été le plus beau. Ça a été vraiment magnifique.
Ah oui, alors c'est magnifique. Terrible de penser qu'il a écrit ça dans ces circonstances qui le conduisaient à la mort. Mais évidemment, il y a cette densité. Et c'est peut-être le thème de l'amitié. C'est page 239, je crois, du livre.
Exactement, voilà. Exactement.
Et je vous laisse le lire. Et peut-être, une de mes amies m'a dit ce matin, c'est bien de te lire, mais c'est bien aussi que tu lises. Alors, vous allez le lire, vous, avec votre voix, et je vais le lire, moi, avec la mienne.
Alors,
S'il vous plaît. Donc, c'est ce poème qui est le raccourcissement du front de l'amitié.
Oui, mais ce dont je parlais, c'était véritablement le testament qu'il a écrit en prison. Et, parce qu'il y a un autre thème de Brasillach, c'est qu'il a été en prison plusieurs fois. Il a été en prison dès le début de la guerre, dans la débâcle. Il a été fait prisonnier dans un camp allemand. Et il a été prisonnier, et il est passé de camp en camp. Ça a été, et il le dit d'ailleurs, ma destinée, c'est d'être prisonnier. Et puis bien sûr,
oui, final.
Voilà. Quelques amis s'en sont allés, telles feuilles que vent emporte. Sur eux, il faut fermer la porte. Il reste ceux qui sont restés. L'amitié demeure plus forte, la vraie. Les frères de notre jeunesse, les camarades de nos camps, ceux des feux dans la nuit épaisse, ceux des marches avec les chants, tiennent bien leurs vieilles promesses, pourtant. Ceux que l'on a perdus en route s'effaceront dans le lointain, Que nous importent les déroutes ? Nous aurons bien d'autres matins. Je sais déjà que nous écoutent demain.
Quelques amis s'en sont allés, telles feuilles que vent emporte. Sur eux, il faut fermer la porte. Il reste ceux qui sont restés. L'amour demeura plus fort. L'amitié demeurera plus forte, la vraie. Les frères de notre jeunesse, les camarades de nos camps, ceux des feux dans la nuit épaisse, ceux des marches avec les chants, tiennent bien leurs vieilles promesses pourtant. Ceux que l'on a perdus en route s'effaceront dans le lointain, que nous importent les doutes, nous aurons bien d'autres matins. Je sais déjà que nous écoutent demain, 22 octobre 1943. Pardon pour mon lapsus de la première strophe, mais je suis assez ému, même plus que ça, en lisant ce poème, surtout avec le titre « Raccourcissement du front de l'amitié ». Mais avant que nous nous quittions, vous aviez souhaité, chère Anne, faire entendre la chanson qui est écrite le 25 janvier 1945, page 291 de ce recueil.
Oui, ça c'est même une prière. Hein.
Mais oui, c'est la raison pour laquelle je voudrais qu'on termine.
C'est une prière.
Presque. C'est la prière, donc page 291, c'est la chanson « La vie s'écoule entre mes doigts ».
Non, c'est une prière.
Ah, vous voulez dire la prière avant le psaume ?
Absolument.
Ah, le psaume qui est page 266, voilà. Nous sommes en train de feuilleter le livre. Alors, je vous laisse dire le psaume et je dirai la chanson.
Absolument. Vous avez fait le ciel pour vous-même, Seigneur, et la terre d'ici pour les enfants des hommes. Et nous ne savons pas de plus réel bonheur que les bonheurs cernés par le monde où nous sommes. Nous voulons bien un jour célébrer vos louanges et nous unir au chant de vos désincarnés. Mais vos enfants, Seigneur, ils ne sont pas des anges et c'est au cœur d'en bas que le cœur est lié. Pardonnez-nous, Seigneur, de ne pas oser croire que le bonheur pour nous est une autre couleur que la joie de la source où nos bouches vont boire et du feu où nos mains recueillent la chaleur. Pardonnez-nous, Seigneur, dans nos prisons captives, de songer avant tout aux vieux trésors humains et de nous retourner toujours vers l'autre rive et d'appeler hier plus encore que demain. Pardonnez-nous, Seigneur, si nos âmes charnelles ne veulent pas quitter leur compagnon le corps, et si je ne puis, ô terre fraternelle, goûter de l'avenir une autre forme encore. Car les enfants pressés contre notre joue d'homme, les êtres qu'ont aimé nos cœurs d'adolescents, demeurent à jamais devant ce que nous sommes, l'espoir et le regret les plus éblouissants. Et nous ne pourrions pas, pétris de cette terre, rêver quelque joie où ne nous suivraient pas la peine et le plaisir, la nuit et la lumière qui brillaient sur le sol où marquèrent nos pas.
Alors, complémentaire de ce poème prière, il y a ce poème que je voulais lire tout à l'heure, la chanson que je vais lire maintenant, écrit à Fresnes, et donc datée du 25 janvier 1945, et qui est le complémentaire parce que vous allez l'entendre, au lieu de prier, eh bien, il salue et il dit « Voilà qui je suis ». Vous comprendrez cela en écoutant le dernier vers. « La vie s'écoule entre mes doigts. » Ce n'est pas une image, en somme. « La vie s'écoule entre mes doigts. » Je sens l'eau qui fuit de mes paumes. Je pourrais faire sur le mur le compte strict de mes journées. Je pourrais mettre sur le mur ma vie bien vite dessinée. Tant de choses sont contenues dans le cercle de 2 semaines. Tant de choses sont contenues, la joie ensemble avec la peine. En quelques jours brefs et étranges, plus riches qu'aucun jour passé, en quelques jours brefs et étranges, toute la chance est entassée. Comme un peu d'eau prise à la source, toute la vie pour le buveur. est là, comme prise à la source. Il fallait bien garder l'honneur. Voilà ce dernier vers de l'honneur. Et c'est une manière de conclure. Je voudrais, avant un dernier mot de la part d'Anne Brassier, la remercier, lire, puisque depuis quelques émissions, je rends hommage à celle qui fut mon amie et qui est morte récemment, Vénus Kourigata, qui a préfacé quelques-uns de mes livres. Et je voudrais lire ce poème d'elle, qui est peut-être dans... Enfin, j'en lis un extrait, n'est-ce pas ? Parce que toute sa vie, elle a été évidemment marquée par la mort depuis son enfance. Et elle dit, « À les entendre, la terre à l'origine était un caillou, devenu terre à force d'avaler des poussières. La mer, une goutte d'eau qui a bu toutes les pluies. La lutte est lutte parce qu'on la regarde. Les étoiles, des clous pour visser le ciel, pour qu'il ne tombe pas sur nos têtes. » Alors effectivement, peut-être nous avons repoussé le ciel un peu aujourd'hui, ou nous l'avons rapproché, je ne sais pas, mais il y a eu une sorte de lutte. Alors,
en tout cas, il faut savoir que le ciel nous attend.
Le ciel nous attend, et pour remplacer la lutte par le lutte constellé, si cher à mon cœur.
Très jolie image. Je voudrais prévenir les auditeurs que je refais un salon du livre.
Alors, ce n'est plus, quel bonheur.
Ce n'est plus sous les pommiers. Je reste à Paris, mais c'est rue Monsieur. Rue Monsieur, le 30 mai, c'est un samedi. Qu'ils veulent bien noter.
Ça se déroule où, rue Monsieur ?
Rue Monsieur...
Parce que la rue Monsieur, c'est Faubourg Saint-Germain, c'est aux Invalides, mais...
Non, oui, c'est près de la pagode.
Bien sûr, oui.
C'est près de la pagode.
La deuxième pagode de notre émission.
Cette rue Monsieur.
Cette rue Monsieur.
Et de toutes les façons, les informations seront sur mon blog annebrassier.fr. Voilà.
Et ce salon réunira d'autres écrivains ?
Ah oui, c'est un salon comme tous les salons d'écrivains. En fait, c'est un salon de mes amis.
Ah ben voilà, c'est ça, je voulais savoir quel était le fil.
Vous y êtes invité,
Pascal. Eh bien, j'y serai.
J'ai fait un premier galop l'an dernier, qui a été très, très heureusement accueilli. Et donc, et cette année, je confirme, et donc vous êtes déjà invité.
Répétez-nous la date.
Le 30 mai, samedi 30 mai.
Samedi 30 mai, rendez-vous 7 rue Monsieur avec Anne Brassier. Merci, chers amis, une dernière plage musicale. Et comme je dis toujours, vive la poésie, mais aussi que vive longtemps, non pas la mémoire de Robert Brasillach, mais son modèle, son exemple, et que nous continuions de l'aimer pour nous aimer les uns les autres.
Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre Promenade et flâneries au domaine de poésie, dirigée par Pascal Payen à Penzeller. Émission préenregistrée le 20 mars 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie vendredi 8 mai, de 10h à 11h, et réalisée par Michael et Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.